Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Ce soir à la une, Jean-Paul Belmondo, magnifique pour l'éternité. La musique du professionnel, jouée par la garde républicaine, sous les applaudissements, vous l'entendez, des stars de ciné, des admirateurs anonymes, immense émotion. L'hommage national à la légende Bebel s'est achevé il y a quelques minutes. Emmanuel Macron a prononcé l'éloge funèbre dans la cour des Invalides, à quelques pas du cercueil de l'As des As.
Nous aimons Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. Belmondo, c'est un peu nous en mieux. Adieu Bebel.
Évidemment, dans RTL Soir, avec nos envoyés spéciaux, nous allons vous raconter ce moment de recueillement et puis vous allez entendre les Parisiens qui se pressent en ce moment à l'extérieur des Invalides. La cour leur sera ouverte d'ici 1h30. Allez, les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. RTL au Tarteret dans l'Essonne à la rencontre des habitants, des policiers, des élus pour tenter de comprendre les violences des derniers jours. Sentiment d'injustice contre gestion assumée des tensions. Enquête RTL à suivre. Elles ont perdu un frère, une fille. Elles souffrent de séquelles psychologiques. Défilé de victimes aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre pour tenter de se constituer partie civile. Et puis ce bug des impôts révélé aujourd'hui. Pour des centaines de milliers d'indépendants, certaines aides risquent de tarder à arriver. Les courses dans le Quintet Plus tout à l'heure à 18h20 à Longchamp. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 9, le 7, le 15, le 12, le 5, le 8 et le 6, le 14 et non partant.
Dans un quart d'heure, la contraception gratuite désormais pour les femmes de moins de 25 ans. Pourquoi, comment la brigade RTL va tout vous expliquer. À suivre aussi ce chiffre terrible. Un quart des Français ne mangent pas à leur faim. Le Secours Populaire alerte. Son président sera notre invité et vous entendrez la descente aux enfers d'une femme tombée en quelques mois seulement dans la pauvreté. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière. Ce soir, on vous emmène au théâtre pour une pièce originale où le public est acteur. À 18h40, on va défaire le monde, 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signy et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Retour de l'inflation, les prix augmentent, mais vous découvrirez qu'il y a peut-être de quoi se réjouir. Et puis on vous contera aussi la folle histoire de deux bébés échangés dans une maternité.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, du débat notamment autour des violences au Tarteret à Corbeil-Essonne. Et puis tout au long de l'émission, des points très réguliers sur le temps. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
En un mot, la tendance.
La tendance à l'amélioration demain après-midi, sauf sur la façade est avec encore des averses orageuses.
Le détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Tout au long de sa vie, il n'a cessé de chercher le bonheur, mais surtout de le donner. À travers ses films, évidemment, mais aussi et surtout parce qu'il était et restera un soleil. Le soleil ne s'éteint pas. Il brille, il irradie partout, tout le temps.
Les premiers mots de l'hommage national à Jean-Paul Belmondo, ceux de son petit-fils Victor.
Lui-même comédien, entouré des autres petits-enfants de l'acteur dans cette cour des Invalides au milieu de laquelle a été installé le cercueil de l'As des As. William Galibert, vous êtes sur place pour RTL, une cérémonie ponctuée de sourires et de larmes.
Oui, et on est passé de l'un à l'autre sans s'en rendre compte. En fait, exactement comme dans un bon film, il y a eu ses sourires au moment de la diffusion des extraits cultes de la carrière de l'acteur. Et puis ses yeux embués quand Victor Belmondo, qu'on vient d'entendre, a pris la parole. Il y a aussi eu ses embrassades, ses étreintes entre les proches, les camarades, la bande à Bebel. Ces moments, on les vit dans n'importe quelle famille quand on se retrouve pour faire face à la douleur. La seule différence, c'est que la famille de Jean-Paul Belmondo, c'est pour ainsi dire toute la France. Et Emmanuel Macron l'a bien résumé pendant son éloge funèbre.
Jean-Paul Belmondo était de la famille. Frère, cousin, oncle, ami séducteur, père hors norme, héros aux mille visages, dont la carrière charrie mille vies, dans lesquelles nous retrouvons tous un peu des nôtres et qui ont scandé 6 décennies de vie française.
Adieu Bebel, a conclu le président. La famille Belmondo se lève déjà pour suivre le cercueil qui s'en va. C'est le générique de fin et la dernière ovation. Cette musique du professionnel jouée par la garde républicaine, les larmes remontent dans le public qui applaudit encore plus fort. une dernière fois.
William Galibert aux Invalides pour RTL.
Les Invalides devant lesquels un écran géant a été installé pour permettre au public de suivre cette cérémonie avant de se pouvoir se recueillir devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo ce soir. Parmi ces anonymes, il y a Victoria, rencontrée par Julien Fautra pour RTL.
Bébel, moi je l'ai découvert, je devais avoir 12-13 ans. Puis après, il m'a accompagnée tous les dimanches soirs en famille. Après, quand j'ai été jeune femme, je disais, j'aurais rêvé qu'il me tienne dans ses bras, vous voyez, comme les actrices. Bon, on perd un vieux copain, vraiment. On le connaissait pas, nous, personnellement, nous, le public. Mais il était si proche de nous, si proche des gens, qu'on a l'impression de perdre un pote.
Et donc, c'était assez naturel de venir ici?
La question se pose même pas. Belmondo, on est là pour lui.
Un hommage comme une évidence pour Victoria. Les obsèques de Jean-Paul Belmondo seront célébrées demain.
RTL 8h et 6 minutes. 6 jours de tension, une intervention policière avortée hier. Enquête RTL maintenant sur la situation dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes.
On a voulu comprendre, aller au-delà de cette vidéo devenue virale. Des policiers contraints de rebrousser chemin sous des jets de cocktails Molotov et de tirs de mortier. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendue pour RTL dans ce quartier qui porte encore les stigmates des violences des derniers jours.
Oui, au pied des caméras de vidéosurveillance, le sol est encore noirci par les départs de feu.
Il y a toujours des tensions entre jeunes et policiers, tout ça. Ouais, faut bien que ça se calme. Hein.
John a grandi au Tarteret, il appelle à l'apaisement. Le jeune homme de 22 ans explique que c'est l'arrestation d'un de ses amis la semaine dernière qui a déclenché la colère de certains habitants du quartier.
Il y avait un ami à moi qui était en mini-moto. En mode, il était en règle, la moto était en règle, tout ça, il y avait tous les papiers. Et la police, ils ont décidé de le prendre en chasse jusqu'au niveau de chez lui. Et ils ont décidé de l'embarquer la moto ainsi que l'individu. Son frère, sa mère sont descendus. Et après, comme il a embarqué tout ça, ça a commencé à s'effriter un peu, ça s'est chamaillé.
Et il y a la maman qui est descendue.
La maman qui a voulu s'interposer vu que c'est normal de protéger son fils qui s'est gazé. Et elle a reçu des coups de gel, d'extinte. C'est pas normal ça, de recevoir des coups de gel, d'extinte sur le moment.
À côté de lui, un adolescent d'une quinzaine d'années, un profond sentiment d'injustice attise sa colère. Il a assisté à la prise à partie de l'équipage de policières.
J'ai vu ce qui s'est passé hier. Et moi, je pense qu'il faut continuer comme ça jusqu'à ce qu'ils nous respectent et respectent les personnes du quartier.
Alors voilà, je vous assure que les sentiments sont partagés, ce n'est pas l'avis de tous les jeunes qui vivent dans ce quartier, mais comme hier soir, un dispositif policier renforcé sera déployé dans le quartier. La nouvelle unité d'intervention CRS-8 sera là ce soir en appui des équipages locaux.
Alors, on entend la parole de ces habitants du quartier, mais vous avez aussi, Alice, rencontré les élus et rencontré les policiers. Ils vous disent quoi de ces tensions?
Alors, je me suis entretenue avec ces policiers. Donc, côté police, une source au niveau national nous assure que l'équipage a fait son travail dans les règles la semaine dernière et assume... Oui, cette mère de famille a été gazée car la situation se tendait. Une réunion a même été organisée avec les habitants du quartier en début de semaine après plusieurs soirées de tension. Et lors de cette réunion, on entend une commissaire qui maintient sa position.
Alors je ne m'excuserai pas. Pourquoi je m'excuserai, monsieur, exactement?
Parce qu'il y a eu un rodéo. Mais attendez. Moi, j'ai des leçons de recevoir de personne, déjà premièrement.
Alors la situation, vous l'entendez, s'est tendue une nouvelle fois avec les habitants. Et hier soir, ce fourgon de la brigade spécialisée de terrain a été la cible de tirs de mortier. Des tensions du point de vue de leur durée, c'est du jamais vu depuis une dizaine d'années. C'est ce qu'assure en tout cas un policier de la brigade que j'ai eu au téléphone. Le premier adjoint à la ville de Corbeil, lui, refuse d'y voir un lien avec le gazage de la mère de famille.
Ce n'est pas le quartier qui manifeste vis-à-vis de la police. Il y a eu une émotion qui s'est manifestée, mais là, hier, c'est véritablement des criminels, des voyous, de notables, qui préparent un guet-apens et qui s'attaquent avec des moyens extrêmement dangereux à la police.
Alors l'enquête débute tout juste pour savoir qui est derrière ces violences auxquelles on a assisté hier. Mais en tout cas, le premier adjoint à la ville de Corbeil, lui, il voit donc une opportunité des trafiquants pour reprendre la main sur le quartier.
Enquête signée Alice Moreno du service police-justice de RTL. À Bordeaux, le jugement dans le procès de Mouf, présenté comme l'un des plus importants trafiquants de drogue français. Il a été condamné à 16 ans de prison avec une peine de sûreté des deux tiers. Il devra aussi payer des amendes dont l'une de 4 millions d'euros.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir, direction le palais de justice de Paris où de nombreuses victimes tentent de se constituer partie civile pour le procès des attentats du 13 novembre. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et donc, comme promis, la suite de votre journal. Vous écoutez RTL, il est 18h11. On en vient au procès des attentats du 13 novembre. C'est le deuxième jour et il y a un contraste vraiment saisissant entre un accusé vindicatif et des victimes tout en retenue.
Oui, avec un Salah Abdeslam qui éructe sur les morts en Syrie et dédouane certains de ses co-accusés sans d'ailleurs que la parole lui soit donnée. Alors que depuis la mi-journée, c'est bien l'appel des parties civiles qui continue.
Dont certaines tentent d'ailleurs de se faire connaître aujourd'hui et ont même fait pour l'occasion le déplacement. Compte rendu d'audience avec vous Anne Lehenaf au palais de justice de Paris pour RTL.
C'est une famille toute tremblante qui s'avance à la barre. Pierre était au Bataclan, il est entouré par ses deux parents. Arrivent deux Chiliennes, la mère et la sœur d'une victime tuée au Bataclan. Elles n'avaient pas compris qu'elles pouvaient se constituer partie civile. Puis une femme entièrement voilée. « J'étais au Stade de France, j'ai jamais parlé jusqu'à maintenant. »« Vous avez été blessée ?» demande le président. « Non, pas physiquement. » Psychologiquement, elle hoche la tête. Olivier, dossier rouge sous le bras, était policier, hors service ce soir du 13 novembre. Il surgit rue de Charonne juste après le départ du commando. Il est en arrêt maladie pour dépression depuis 5 ans maintenant. L'un des procureurs se lève. « Il ne s'agit pas de minimiser ce que vous avez fait ou subi, monsieur, mais vous êtes arrivé après. Juridiquement, vous ne pouvez pas être partie civile. Vous êtes ce qu'on appelle un témoin malheureux. La cour décidera dans quelques jours si ces nouvelles demandes sont recevables. La souffrance de ces dizaines de victimes proche de victimes prend corps au milieu de la salle d'audience. En repartant, une femme toise longuement les accusés, mais la plupart n'ont pas un regard vers le box.
Anne Lehenaf devant la cour d'assises spéciale de Paris. Merci. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, convoquée demain devant la cour de justice de la République. Elle pourrait être mise en examen dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Et au-delà de la gestion gouvernementale, l'ensemble des autorités fait aussi l'objet de nombreuses plaintes. Selon les informations d'RTL, 18 390 plaintes sont ainsi arrivées ces derniers mois au parquet de Paris.
Erreur du fisc en votre défaveur.
Déclaration de revenus perturbée pour des centaines de milliers de travailleurs indépendants. L'administration fiscale a reconnu le bug aujourd'hui. Que s'est-il passé, Pierre Arbulot ?
La Direction générale des finances publiques n'a tout simplement pas pris en compte près d'un million de déclarations de revenus. Sont concernés principalement des artisans et des commerçants, ceux qui ont recours à un expert comptable pour transmettre leurs déclarations au fisc. Un dysfonctionnement qui s'explique par une série de problèmes techniques, un incendie sur l'un des sites des impôts, mais aussi et surtout une surcharge de travail avec la crise sanitaire, puisque ce sont les services fiscaux qui gèrent le versement du fonds de solidarité aux entreprises.
Quelles conséquences pour ces travailleurs indépendants ?
En fait, ils sont nombreux à attendre des remboursements. Le Covid a matraqué l'activité de ces chefs d'entreprise l'an dernier. Ils ont donc déclaré, pour la plupart, moins de revenus au printemps. Leur taux d'imposition a chuté. Pas pris en compte donc. L'une des clientes d'un comptable que j'ai pu joindre attend par exemple un versement de 6 000 euros.
Et est-ce qu'on sait quand ce sera réglé ?
Alors le mois prochain pour les premiers remboursements, mais ça pourrait s'étaler sur de nombreux mois.
D'accord.
Explication signée Pierre Arbulot pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Une bonne nouvelle qui va vous ravir, Julien. Carnet rose aux eaux d'Amnéville en Moselle qui vient d'annoncer la naissance le mois dernier de deux lionceaux d'Afrique, une espèce rare, hein, seulement 35 000 spécimens dans le monde. Pour l'instant, ces deux adorables peluches, c'est bien à ça qu'elles ressemblent, vont rester à l'abri des regards le temps d'être sevrées et vaccinées et d'avoir un prénom. Et pour ça, bah vous allez pouvoir être utile. Hein. Le zoo fera bientôt appel au public qui pourra se prononcer sur les réseaux sociaux.
Julien et Marion, c'est pas mal, non ? Pour les lionceaux, qu'est-ce que vous en dites ? C'est pas mal. Merci Marion, on vous retrouve tout à l'heure. Le temps maintenant, Peggy, à quoi ça ressemble demain ?
Alors, demain, on a encore des orages. Il faut signaler qu'il y a en ce moment 4 départements qui sont en vigilance orange, orage et pluie inondation. Ça concerne l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne. On attend de fortes pluies et demain, ces pluies, elles vont se décaler sur la façade est toute la journée. Elles seront encore localement orageuses, voire soutenues par endroits. Sur le reste du pays, un ciel chargé, quelques averses, mais une belle amélioration au fil des heures entre la Normandie et la côte atlantique avec le retour d'éclaircies. Un ciel plus lumineux sur les régions centrales avec encore des averses éparses, voire un coup de tonnerre et des températures en baisse. Au nord, 20 à Cherbourg, 23 à Paris ainsi qu'à Biarritz, 24 à Reims, Strasbourg et Lyon, 27 à Montpellier et Toulon.
Merci Peggy.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, RTL 18h, 15 minutes. RTL Soir s'arrête maintenant sur cette petite révolution. La contraception, bientôt gratuite pour les femmes de moins de 25 ans. Annonce du ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce matin, immédiatement sur RTL, le très réputé gynécologue Israël Nisan a applaudi.
C'est une excellente nouvelle. C'est une chose que nombre de personnes qui s'occupent de la vie des femmes et de la santé des femmes demandaient depuis des années.
Alors pourquoi c'est une si bonne nouvelle pour les médecins? Quelle mise en place exactement? La brigade RTL va tout nous expliquer. Maintenant, on va poser trois questions à Agathe Landais. Agathe, déjà, combien de femmes vont être concernées?
Eh bien, en France, il y a 3 millions de femmes âgées de 18 à 25 ans. Toutes auront donc accès gratuitement à la contraception dès le 1er janvier prochain.
Pourquoi cette décision là? Maintenant, est-ce que c'était devenu nécessaire?
Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, sur ces 3 millions de jeunes françaises, 1,6 million seulement utilisent un moyen de contraception. C'est donc un tout petit peu plus de la moitié. Et en plus, dans cette tranche d'âge, le recours à la contraception est en baisse selon les autorités de santé. Selon les associations féministes et les gynécologues, c'est souvent bien la question financière qui pose problème. Car ces jeunes femmes étudiantes qui n'ont parfois pas commencé à travailler, sont ouvertes. Souvent réticentes à l'idée de devoir payer une consultation chez un gynécologue, c'est pas donné. Puis ensuite, avoir un reste à charge tous les mois pour une plaquette de pilules. C'est ce que nous confirme aussi le planning familial. Quand une jeune femme vient les voir pour une contraception, la première question qu'elle pose souvent, c'est si telle pilule, tel implant ou tel stérilet est remboursé.
L'objectif, c'est de pouvoir réduire à terme le nombre d'avortements.
Oui, car c'est bien prouvé. Rendre la contraception gratuite, ça fonctionne pour faire baisser le nombre d'IVG. On le sait parce qu'en 2013, la contraception est devenue gratuite pour toutes les jeunes femmes de 15 à 18 ans. Et cela a permis de faire nettement baisser le taux de recours à l'IVG dans cette tranche d'âge. On est passé de 9 avortements pour 1000 grossesses en 2012 à 6 pour 1000 en 2018. Selon les derniers chiffres disponibles, la France pratique environ 230 000 avortements par an. Et tous les spécialistes nous l'affirment, si l'on veut moins d'IVG dans notre pays, il faut que toutes les femmes, même les plus précaires, puissent avoir un accès à la contraception.
Les explications d'Agathe Landais, la brigade RTL, pour vous servir chaque soir. Merci beaucoup Agathe. On marque une pause dans RTL Soir et ensuite on va s'intéresser à ce chiffre qui glace en quelque sorte. Un Français sur quatre ne mange pas à sa faim. Pire, 4 Français sur 10 se privent pour offrir des repas complets à leurs enfants. Le Secours Populaire interpelle. Dans un instant sur RTL, vous allez entendre son directeur général, mais aussi le témoignage d'une femme tombée en quelques mois seulement dans la pauvreté. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, vous écoutez RTL et maintenant on va s'arrêter sur ce chiffre qui forcément va vous interpeller. 27% des Français ne mangent pas à leur faim. Rendez-vous compte, un quart des Français se privent, rognent sur les quantités dans l'assiette et pire, 1 sur 5 saute des repas. C'est le Secours Populaire qui alerte avec un vaste sondage Ipsos. Bonsoir Thierry Robert.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de l'association. On va échanger ensemble dans un instant. Auparavant, je voudrais vous faire écouter un exemple concret parce que la crise sanitaire économique a visiblement précipité des personnes dans la pauvreté. Personnes contraintes aujourd'hui de vous demander de l'aide parfois dans les antennes du Secours Populaire. Vous allez l'entendre là. La descente aux enfers peut être rapide, soudaine. C'est un reportage RTL de Mourad Jabari en région parisienne.
L'argent n'a jamais été un problème pour Sandra, photographe professionnelle, propriétaire d'une maison avec piscine, d'une maison secondaire aussi sur la côte. Et pourtant, du jour au lendemain, son frigo devient de plus en plus vide.
Ça a été, on va dire, un petit peu la descente aux enfers parce que plus d'activité. Et je ne rentrais pas dans les protocoles d'aide. C'était brutal.
La maman célibataire ne sait plus alors comment nourrir sa fille de 15 ans.
C'est du jour au lendemain où on vit un petit peu sur les économies aussi. Jusqu'au jour où on s'est dit ça ne peut plus continuer comme ça. Et en fait, on se retrouve au pied du mur.
Alors elle se retrouve en quelques mois et pour la première fois, faire la queue au milieu de personnes qu'elle n'avait jamais côtoyées, des SDF, des personnes isolées, des migrants, tous venus chercher comme elle un colis alimentaire au Secours Populaire.
Déjà, j'avais une sensation de ne pas être à ma place. On a pour habitude, nous, de donner. Donc, on connaissait le Secours Populaire. Ma fille, je ne vais pas dire dans les premiers temps, et puis un jour, voilà, j'en ai parlé. Pour elle, ça a été compliqué, parce qu'elle s'est dit « Oui, mais bon, maintenant, ça veut dire qu'on est un petit peu pauvre, alors. » Et en fait, je lui ai simplement répondu « Est-ce qu'il te manque quelque chose ?» Elle me fait « Non, écoute, c'est juste de la nourriture, t'inquiète. » t'inquiète pas.
Sandra n'a jamais eu la Covid et pourtant, indirectement, elle a elle aussi été touchée par la maladie, mais financièrement.
Un reportage RTL saisissant, signé Morad Jabari. Thierry Robert, vous, le directeur général du Secours Populaire, je reviens vers vous. Des personnes comme Sandra, est-ce que vous en croisez de plus en plus sur le terrain? Est-ce qu'il y a eu clairement un effet Covid?
Oui, malheureusement, et c'est ce que l'on constate depuis maintenant plus d'un an et demi, effectivement, la venue vers le Secours Populaire de personnes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas besoin de l'aide des associations, étaient plutôt effectivement du côté de ceux qui étaient des soutiens à notre association. On l'a vu cet été notamment aussi, nous avons permis à des familles de partir en vacances alors qu'il y a 2 ans, elles avaient la possibilité de partir par leurs propres moyens.
Ce sont qui des entrepreneurs, des gens, des indépendants, des gens qui n'arrivent pas quelque part à rentrer dans le champ des aides?
Oui, tout à fait. Ce sont des gens qui sortent des critères sociaux, des auto-entrepreneurs, des gens qui vivaient aussi beaucoup de l'intérim. Et puis j'insiste aussi beaucoup sur le volet des étudiants qui ont été aussi des premières victimes et qui n'avaient plus qui n'ont plus retrouvé de job comme ils l'avaient auparavant. Et c'est autre exemple aussi à la rentrée des classes où nous avons aussi aidé des familles qui n'avaient pas de quoi acheter le matériel scolaire, les cartables neufs pour les enfants et qui n'avaient pas, eux, recours à la prime de rentrée scolaire parce qu'ils n'étaient pas dans les critères des aides sociales.
Vous parlez des enfants, il y a un chiffre là aussi qui interpelle dans votre sondage. 42% des parents se privent parfois de nourriture pour offrir de meilleures conditions de vie à leurs enfants. 42%, c'est considérable.
C'est énorme. Et on a vu effectivement cette souffrance à la fois des parents et à la fois des enfants pendant toute cette durée de la crise sanitaire. Et c'est aussi pour ça que le Secours Populaire renforce aussi son partenariat avec l'agroalimentaire, avec l'agriculture, les marchés bio, les marchés de gros, les mines, etc., pour pouvoir développer cette aide alimentaire indispensable. Nous entendions ensemble le témoignage tout de suite.
Est-ce que ça veut dire aussi que sur le terrain, peut-être que vous avez des exemples en tête d'ailleurs concrets, vous croisez des parents qui font tout pour cacher leur situation à leur famille?
Bien sûr, c'est pas évident de montrer à ses proches, y compris à ses enfants, qu'on est dans la difficulté. Et c'est aussi une des pratiques de notre association de respecter la dignité des gens, de demander même de façon symbolique une participation. Nous cherchons en permanence à ce que la façon d'aider les gens ne soit pas indigne et préserve leur dignité.
Parce qu'il y a peut-être, alors pardonnez-moi l'expression, mais des nouveaux pauvres entre guillemets, comme Sandra qu'on vient d'entendre, qui n'arrivent toujours pas à passer la porte d'une antenne du Secours Populaire ou d'autres associations.
C'est le rôle important de ce qu'on appelle chez nous les collecteurs. Ce sont les bénévoles de l'association qui sont aussi présents sur des lieux de travail, dans des quartiers, dans des villages, et qui sont aussi proches de situations de détresse. Les gens ne viennent pas spontanément parce que, comme on l'a entendu dans votre témoignage, c'est pas forcément notre place. Il y a peut-être plus pauvres que nous, et puis c'est peut-être passager. Puis finalement, derrière, les choses s'enfoncent. Et du coup, c'est une solidarité de proximité qu'on a constatée ces mois derniers, avec beaucoup de situations où ce sont presque plutôt nous qui sommes venus vers les personnes en détresse que l'inverse. Et j'ai envie de dire, il faut vraiment être à l'aise au Secours Populaire. Il n'y a pas celui qui donne et celui qui reçoit. Notre approche est tout à fait différente, justement pour préserver cette dignité dont les gens ont besoin.
Clairement, à vous entendre, il y a urgence. Alors, il y a 10 mois, Emmanuel Macron avait promis la création d'un chèque alimentaire pour les plus démunis. Finalement, cette semaine, le gouvernement a annoncé que ce chèque ne verrait pas le jour avant 2022. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre, selon vous?
En tous les cas, il y a une urgence. Il y a une urgence à mettre des mesures en place. Il y a une urgence à permettre à ce que les gens puissent retourner vers l'emploi. Il y a des urgences dans ce domaine, oui, bien sûr.
Merci Thierry Robert, directeur général du Secours Populaire, d'avoir été ce soir l'invité de RTL, alors qu'un sondage de votre association donc nous a particulièrement interpellés ce soir avec ce chiffre. Hein, on le rappelle, 27% des Français ne mangent pas à leur faim. Merci d'avoir été l'invité de RTL.
Merci beaucoup.
Allez, on va marquer une pause et puis ensuite RTL va continuer. On va retourner, si vous le voulez bien, aux Invalides. La France dit adieu à Jean-Paul Belmondo. Alors après l'hommage national qu'on vous a raconté dans le journal de 18h, voici venu le temps du recueillement populaire parce que d'ici une heure, le public va pouvoir à son tour entrer dans la cour pour saluer une dernière fois le magnifique. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Allez, bonne fin de journée. RTL Soir vous accompagne 18h30.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Et si vous nous rejoignez à l'instant sur le chemin peut-être de la maison, eh bien on refait le point sur les grands titres de l'actualité avec vous, cher Marion Calais.
Alors que l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pourrait être mise en examen demain pour la gestion de la crise sanitaire, il n'y a pas que le gouvernement qui est visé par des plaintes. Selon les informations d'RTL, plus de 18 000 plaintes ont été enregistrées ces derniers mois par le parquet de Paris contre d'autres représentants et autorités sanitaires. L'offensive du président américain face à l'augmentation des cas de Covid, Joe Biden doit signer aujourd'hui un décret pour rendre la vaccination obligatoire chez les fonctionnaires. Un premier vol d'évacuation depuis le retrait américain d'Afghanistan fin août. 200 ressortissants étrangers ont pu quitter Kaboul, destination Doha, au Qatar. Et puis à Munich, le procès du footballeur allemand Jérôme Boateng, récemment recruté par Lyon. Il est jugé pour des violences à l'encontre de son ex-compagne, violence qu'il a réfutée lors de son procès. Il risque jusqu'à 5 ans de prison.
Merci Marion et bonne soirée. Le temps maintenant avec vous, Peggy. On a 4 départements qui sont en vigilance ce soir.
Oui, vigilance orange, orage et pluie-inondation. Ça concerne l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Et demain, les averses orageuses seront essentiellement et toute la journée sur la façade est. À l'ouest, le matin, des nuages et quelques averses. On ira vers l'amélioration l'après-midi avec le retour d'éclaircies sur la façade atlantique. Et dans les régions centrales, encore quelques averses sous un ciel un peu plus lumineux et quelques coups de tonnerre. Tout ça sous des températures en légère baisse de 20 à Cherbourg à 27 à Nice.
Merci Peggy.
RTL Soir, Julien Cellier.
Et vous l'avez compris, c'est notre fil rouge ce soir.
Nous aimons Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. Belmondo, c'est un peu nous en mieux. Adieu Bébel.
Voilà, vous réentendez ce moment d'émotion, l'éloge funèbre prononcé par Emmanuel Macron tout à l'heure dans la cour des Invalides. C'était il y a 1h15 lors de l'hommage national à Jean-Paul Belmondo. Mais cette soirée de recueillement, elle n'est pas terminée. Bien au contraire, place à l'hommage populaire maintenant en quelque sorte. On vous retrouve, Julien Fautras, sur place. Rebonsoir. Le public attend maintenant l'ouverture dans 1 heure des portes des Invalides pour aller à son tour se recueillir.
Oui, ils attendent patiemment devant les Invalides, des dizaines d'admirateurs déjà. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a ici toutes les générations, beaucoup entre 5 et 65 ans évidemment, une adolescence dans les années 60 avec Bébel, mais aussi des ados. Nathan par exemple, il a 17 ans, il vient de faire sa rentrée au célèbre cours Florent, il veut être comédien.
C'est un peu pour moi l'ancêtre de Tom Cruise, le premier à faire ses cascades lui-même, donc bravo à lui.
Devant moi c'est peut-être le futur Jean-Paul Belmondo, alors.
Bah oui, c'est exactement ce que notre prof de théâtre a dit. Le premier jour où on est rentré dans la classe, il a dit, qui sait, peut-être que son âme plane sur l'un d'entre vous. Et quand on le voit jouer, c'est du naturel. On dirait que c'est inné chez lui. Et dans un film, ce qui fait qu'on aime son personnage plus qu'un autre, c'est parce que c'est d'abord et après tout joué par Jean-Paul Belmondo.
Le cercueil restera donc dans la cour des Invalides, un choix de la famille et d'Élysée, comme après le décès de Jacques Chirac où des milliers de personnes étaient venues se recueillir.
Et Julien, cette foule, elle attend dans quel état d'esprit, dans quelle ambiance? C'est une ambiance solennelle de recueillement?
On a oscillé toute l'après-midi, Julien, entre le chagrin et le sourire à force de regarder des extraits sur le grand écran. Ouais. Christine, c'est plutôt le chagrin. Elle perd une idole, nostalgique, Christine, surtout au moment où la musique d'Ennio Morricone, le professionnel, a résonné sur l'esplanade des Invalides.
C'est une musique vraiment extrêmement prenante. Et oui, c'est vrai que tout de suite, les larmes viennent. Ça nous rappelle fortement notre Bebel, ça c'est clair. Il ne pouvait pas choisir mieux.
Merci Julien Fautra depuis les Invalides pour RTL. On va vous retrouver bien entendu avec tous nos autres envoyés spéciaux tout à l'heure dans le journal de 19h. C'est évidemment cet hommage national et populaire à Jean-Paul Belmondo, le fil rouge de RTL Soir. À tout à l'heure.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
18h35.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et oui, vous l'avez compris, c'est l'heure de Laissez-vous tenter, dernière. Chaque soir, la joyeuse bande de LVT vous livre ses bons conseils ciné, musique, télé, bref, pour occuper la soirée à venir. Ce soir, c'est Julia Molcou qui est avec nous. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et nous allons faire Richidé un petit tour au théâtre pour l'embarras du choix qui se joue depuis quelques jours.
Je vous propose en effet d'aller à la rencontre de Max qui, le soir de ses 35 ans, remet sa vie en question. A-t-il fait les bons choix ? Doit-il poursuivre son histoire avec sa fiancée ? Doit-il renoncer à ses rêves de musique ? Bref, de toute façon, à chaque fois que Max se pose une question, eh bien, il se tourne vers ses amis. Et ses amis, bah, c'est le public du Théâtre Michel.
Alors, comment je m'habille pour le rendez-vous ? Le vieux cuir un peu rock ou la veste en velours simple mais classe, d'après vous, là-haut ? Dépêchez-vous. Le velours, ok, le velours.
C'est marrant, t'as la même veste que mon grand-père.
Bon, et ben voilà. Dans l'embarras du choix, Sébastien Azzopardi et tous les acteurs de ce spectacle vont vous faire vivre une expérience unique chaque soir, vraiment.
Alors, pourquoi unique ?
Eh bien, parce que c'est vraiment le public qui choisit la suite de l'histoire qui est jouée sur scène. Et parfois, ce sont des questions beaucoup plus importantes que « quelle veste je vais mettre ce soir ?» Par exemple, qu'est-ce qu'on ferait, nous, si notre amour de jeunesse revenait jouer dans notre vie ? Est-ce qu'on quitterait l'homme ou la femme qu'on doit épouser et on s'embarquerait de nouveau dans cette folie ? Est-ce qu'on resterait là où on est ? Franchement, sans l'aide de nos amis, on n'y arriverait pas. Bah, c'est pareil pour Max.
Vous qui me connaissez si bien. Alors, tiens, Pascal, aide-moi. Qu'est-ce que je fais ? Le week-end en fleurs ou la soirée avec Alice ? Ah, attention, Pascal, on n'est pas au théâtre. Il faut que tu me donnes le bon conseil. Qu'est-ce que tu ferais, toi ? Oui, toi.
Alice.
Non, mais merci, Pascal, t'es un...
Et ce qui est dingue, c'est que si le public ne choisit pas Alice, mais choisit le week-end à Honfleur, ouais. Eh bien, les acteurs doivent immédiatement récupérer la partition Honfleur. C'est ça qui est très épatant avec la troupe de l'embarras du choix. C'est leur capacité de réactivité et de réaction. C'est hyper frais. Ça marche très, très bien. Les gens rient beaucoup. Vraiment, je vous le recommande. C'est au Théâtre Michel. Et c'est tous les soirs. Et après, ils partiront en province, ils me l'ont promis, pour une longue tournée. Comme ça, tous les auditeurs d'RTL pourront aller les applaudir.
C'est formidable. Allez-y, foncez et ou retournez-y parce que du coup, on ne voit jamais la même pièce.
Exactement. Mais c'est si formidable. Vous voulez, j'y retourne avec vous.
Et bien, avec grand
plaisir. Deux fois que je vous propose des trucs.
Vous
allons-y.
Venez. Bah oui, j'ai décliné la
et
première
non,
fois.
Non,
c'est pas aller. Non, pas lui. Il dérange au théâtre. Il mange du popcorn.
Je suis sûr qu'il parle.
Merci beaucoup, Julia. L'embarras du choix au Théâtre Michel à Paris. C'était le choix de laisser vous tenter. Dernière ce soir, vous avez reconnu le trublion Cyprien Cini. Il n'est pas seul puisque Céline Landreau, Arthur Asquin, Laurent Tessier arrivent aussi en studio. Bref, la bande dont défait le monde. On va défaire le monde avec vous, les amis, jusqu'à 19h. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans un instant, entre autres, cette question, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de l'inflation ? Eh bien, la réponse, vous allez l'entendre, n'est pas si évidente. À tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.